Molt bé, doncs molt benvinguts i per començar farem només una petita explicació de quins són els objectius i quina és la metodologia que hem fet servir en el projecte. El projecte en el que s'engloba com a jornada final de presentació d'aquests resultats és porta per títol Estratègia per l'eficiència energètica en explotacions de vaca de llet a l'Euroregió, selecció i comparativa d'eines metodològiques comunes. És un projecte solucionat per l'Euroregió Pirineus Mediterrània en la convocatòria de desenvolupament sostenible 2013 i que ho estem portant a terme durant tot aquest any 2015. Quina va ser la motivació per engegar aquest projecte? Doncs aquest moment clau pel sector i perquè comptem amb l'experiència dels propis socis en altres projectes que estan fent o en la seva tasca com a cambres agràries franceses de control del sector lletir, control del sector boví de llet. Aprofitem aquesta diversitat de perfils de producció lletera, molt diferent el que es fa aquí a Catalunya del que es fa a Menorca, del que es fa a l'Ariès, on ens explicaran en Nicolàs que és de menor, hi ha una producció menor, i a l'Oser. Els objectius metodològics del projecte han estat aquests, o sigui, conèixer primer de tot quins són els diferents usos que es fa de l'energia en les explotacions de vaca de llet i detectar quines són les necessitats i les oportunitats. Compartir els mètodes i les eines de treball, conèixer què fan els diferents territoris i proposar una anàlisi comú d'aquest paràmetre energia. Crear un marc de treball des dels diferents territoris i crear una estructura de discussió transversal entre agents i també a nivell supraterritorial. Estructurar i elaborar un document, aquest document guia que us presentarem avui, guia de bones pràctiques energètiques en el sector de vaca de llet, dirigit a les explotacions lleteres per donar-hi una sèrie de recomanacions, identificar els mecanismes que són imprescindibles per fer un ús responsable i eficient de l'energia, proposar unes mesures d'autocontrol i a cada explotació i per tant unes actuacions molt simples que es puguin anar a fer un autoseguiment. I pensar, elaborar el que seria una estratègia col·lectiva per l'eficiència energètica en el sector de vaca de llet. Quina ha estat la metodologia de treball? Doncs partim des d'una anàlisi del sector a nivell de cada regió, per tant una radiografia, uns estudis i unes comparatives de metodologies. La metodologia que es fa servir a Catalunya i Menorca és diferent de la que fan servir a Luzern, Llenguadoc-Rosselló i Midi-Pirineus, una selecció dels paràmetres d'anàlisis comunes, treballant l'energia de manera integral, l'energia directa de l'electricitat i del gasoil i l'energia indirecta de l'alimentació i dels productes del camp. S'han fet una selecció d'uns casos d'estudi, un mostreig, en el que hem intentat això replegar la diversitat geogràfica de diferents àrees agroclimàtiques, diferents explotacions en diferents números de producció de caps de bèstia, diferents extensions agràries, maquinàries, en diferents productes, amb producció de llet fresca, de iogurts, de llet i carn, de i formatges, transformació a la pròpia granja en formatges i també que quedi palesa en els casos d'estudi aquesta diversitat d'innovació tecnològica que s'aplica en els processos productius. Per això hem fet un treball de camp aprofundit amb enquestes i en alguns casos també hem fet servir uns aparells de mesura. Us he posat aquí un exemple que ens permeten doncs, poder fer una valoració en el temps real dels consums d'energia en l'explotació. Per tant, només un flash, la selecció d'aquests casos d'estudi a l'Àngel de Rosselló i Midi Piriner, n'hi ha explotacions de llet i carn, de llet i formatge d'alta muntanya, de muntanya, de plana, en alta muntanya, que tenen sala de munyir o que tenen robot, que tenen terres en secà i en regadiu, que tenen també alguna explotació, energies renovables, fotovoltaica en aquest cas, instal·lades a l'explotació. Catalunya també, en aquest mateix sentit, llet i porcs, amb una diversitat de caps de bestiar, des de 250 vaques lleteres en producció a 64, amb terres de regadiu. I Menorca, la selecció també ha estat molt diversa. Produccions de llet en formatge i sobretot en espais de secà. Els escassos, cada soci, cada company explicarà amb més deteniment aquests casos. I només parlar-vos també de que la cooperativa, de la manera de treballar els mètodes i l'anàlisi és diferent. A França ens ho explicaran, fan una metodologia PPE, que són uns diagnòstics energètics, la veritat que molt complets, admirables, que fan uns anàlisis de consum d'energia, que també permet fer unes estimacions de gasos d'efecte hivernacle, que fan una estimació de quina és l'energia que es produeix en fonts renovables, fan un balanç de nitrogen, fan una comparativa dels seus casos d'estudi amb una base de dades del dia terra. Per tant, una metodologia molt maca de seguir, que ens l'explicaran. I a Catalunya i Menorca hem fet una diagnosi energètica a partir d'una enquesta aprofundida. S'ha posat una imatge perquè veieu una part d'aquesta enquesta, una enquesta bastant llarga, bastant aprofundida. I només amb aquest flash de metodologia, ara ja passem al senyor Joan Bustamante. Joan Bustamante, sí, que ens presentarà el cas a Catalunya. Així anem seguint el tema.
Bon dia a tothom. Se me sent o no? Sí. Bé, som en Joan Bustamante, som el director de l'Escola de Capacitació i Experiències Agràries de Menorca i em podria definir amb una paraula molt curta, som menorquí. L'illa de Menorca té una superfície de 700 km quadrats justets. Si comptam els illots, arribam als 700, si no, som 680, però en recordem molts 700 km quadrats. Això són 70.000 hectàrees de les que podem cultivar la meitat, més o menys, unes 35.000, i tenim una població de 92.000 habitants. És a dir, que estem parlant d'una illa molt petita que està ben situada ben enmig de la Mediterrània entre França i Argèlia, pràcticament aquí distant entre els dos països, el que vol dir això, de climàtica de França, verd, i de climàtica d'Argèlia, sec. Quan ens movem dintre de l'illa, mai estarem a més de 10 km en línia recta de la mar. Per tant, d'influència marítima, l'influència és constant en tot moment i afectarà de manera total la agricultura que puguem fer. En aquest context, de clima mediterrani i a prop de la mà, volem fer, i feim, una producció lletera de secà. Tenim unes condicions més o menys apropiades durant uns 6 mesos, França, i uns altres 6 mesos passam a ser un clima sec, Argèlia, de sol i playa, que és molt apropiat per als turistes que ens visiten i que tant valoren aquest fet. Però el turisme, que actualment és el principal motor de l'economia menorquina, amb un lloc molt destacat i diferenciat, demana i valora un paisatge rural verge, no massificat, amb activitat agrícola i ramadera. Això ens obliga a relacionar sempre producció lletera i paisatge. Produir llet en sols mesos favorables, mantenint les vaques tot l'any, ben enmig de la mà i amb un clima en principi poc propici, jo crec que és un art, no és una rutina, sinó un art amb maiúscules, tal com ho fan la producció d'alta muntanya, però a l'enrevés, allà a l'estiu fan activitat agrària i els turistes van esquiar a l'hivern. La producció lletera, en el pla de França, Holanda i Alemanya, en terra fonda, allò és una altra cosa. La peça bàsica del paisatge menorquí és el lloc, que és una casa amb diverses dependències agràries adjuntes, i les terres al voltant, totes juntes i accessibles des de la casa, on viu el pagès i la seva família, que permeten el pasturatge de ramatge de ramat cada dia i tots els dies de l'any, sense sortir de la propietat. Aquesta definició va ser vàlida fins als anys 80. A partir d'aquesta data, la rentabilitat dels llocs més petits va resultar insuficient per mantenir una família i es van començar a manejar més d'un lloc per família, i nosaltres vam tenir de començar a xerrar d'explotacions agrícoles que manegen dos o tres llocs conjuntament. A un lloc viu el pagès, funciona en dos o tres llocs més, i en els altres dos o tres cases hi viuen altres persones externes en el sector agrari, o estan buides o abandonades, amb el que això representa per mantenir el paisatge que tots volem. Cada lloc té un conjunt de parcel·les, com aquí se'n reflexa una, totes elles rodejades de paret feta amb pedres de diferents mides, sense cap material que les ajunti. Això és una paret seca amb una alçada mitjana de 6 pams, que són 1,20 m. Això conforma el paisatge de Menorca, que és una retícula de parets i vegetació adjunta i que molt sovint ens posen d'exemple de biodiversitat. Un lloc sol tenir al voltant de 30 parcel·les, que es denominen, o que nosaltres denominem, tanques. Podrem estar parlant de 15.000 quilòmetres de paret seca a Menorca, a raó d'uns 200 metres lineals per hectàrea, i que el pagès té que mantenir, que és el que es veu, no, en aquesta no es veu, la següent, i que ell té de mantenir perquè li faciliten molt el pasturatge sense la presència física del pastor. Ell deixa les vaques i se'n va. Totes les explotacions fan farratges i compren el concentrat que procedeix sempre de península. En aquests moments, l'increment de la producció farragera fa que cada vegada més les finques ajustin la seva producció lletera a l'època favorable de producció de farratges, que és a l'hivern, tal com es feia fa 40 anys. Aquí hem de recordar que Menorca és la zona productora de formatge Mount Menorca, que té denominació d'origen protegida, reconeguda per Europa des de l'any 1985, i que sol obtenir premis en els diversos concursos que es van fent per Espanya, Europa i inclòs Amèrica, sent un dels formatges més coneguts i clàssics d'Espanya, junt amb el Manchego, Cabrales i Idiazábal. La superfície mitjana d'una explotació, conjunt de més d'un lloc, és de 142 hectàrees. Aquí no ho posa. Anem aquí. Distribuïts en dos o tres llocs amb una superfície agrària útil de 97 hectàrees. O sigui que estem xerrant de no d'explotacions petites. Repartides en parcel·les que tenen una mitjana cada tanca de 2,75 hectàrees. Això implica que la mecanització de les feines agrícoles és complicada perquè hi ha que fer moltes maniobres a les tanques més petites, agravat en què hi ha altres obstacles com síquies, munt de pedres, que nosaltres anomenem clapers, o arbres aïllats. Aprofitam ara per dir que les terres de Menorca tenen poca profunditat de terra, tenen moltes pedres sueltes, una fertilitat mitjana tirant a baixa, un pH d'entre 7 i 8 i una matèria orgànica d'un 3%, que és el TET, fruit de l'activitat ramadera des de fa molt d'anys. Ara que parlam de pedres sueltes, hem de parlar d'altres pedres que són molt característiques de Silla, a restes arqueològics, les pedres de la cultura talaiòtica, que hi ha l'emblema per aquí baix el logo. N'hi ha 1.200 restes, és a dir, 1,7 per quilòmetre quadrat. Moltes explotacions lleteres les tenen i han de conviure amb elles en tot el que això vol dir d'accés públic. Són restes de fa 3.000 a 3.500 anys i que motiven que la illa aspiri a ser patrimoni de la humanitat l'any 2017, que és per això que hi ha aquí el logo. Una de les tres explotacions estudiades per aquesta guia té un poblat talaiòtic sencer dintre d'ella i sense excavar. Tot això és molt representatiu del paisatge de Silla, tornant a parlar de paisatge. Les explotacions lleteres disposen de dos tractors com a mitjana. Una potència de 130 cavalls és més nou i de 80 cavalls és més antic. Totes tenen cultivador Serix, que deien nosaltres a Silla, i abonadora, que també sempre s'utilitza com a sembradora. També tenen una segadora de farratges, normalment de discos, i uns rastrells per acondicionar els farratges. Aquestes explotacions tenen una mida al voltant de 55 vaques de llet, amb una recria anual de 15 animals i una producció anual de 350.000 litros d'elles, de llet. D'elles, el 65%, més de la meitat, munyen tots any. L'any 2014 es van controlar a Menorca, que l'any passat, 6.171 vaques, lactacions de vaques frisones només, a 138 explotacions, amb una lactació normalitzada de 7.870, amb un 3,23 de greix i un 3,12 de proteïna. Les sales de munyir tenen una mitjana de 6x2 punts de munyida. Totes les explotacions que produeixen formatge també engreixen porcs per aprofitar el xerigot, el suero, els quals es destinen a la producció de la sobrassada. Per tant, el seu producte de la formatgeria, que és el xerigot, no és un problema mediambiental a l'illa a l'hora de la seva eliminació. A Menorca, l'any 2014, hi feien feina a l'agricultura i ramaderia a l'illa 602 persones, justes, en lloc de feina directes. En el sector formatger hi treballaven 461, que es distribueixen 177 a les empreses i 288 en els llocs. Per tant, en el món agrari a Menorca dona una ocupació al voltant de les 800 persones. O sigui que estem xerrant d'un sector molt petit, però importantíssim, determinant per al paisatge de Menorca. A cada explotació lletera hi treballen dues persones, amb una mitjana d'edat de 45 anys. I aquí es pot comentar un fet diferencial amb altres zones lleteres, que no és un sector envellit. La mitjana d'edat és molt inferior a la resta d'Espanya, i el relleu generacional no és un problema. Per ara. Hi ha joves que no poden entrar a treballar en el sector lleter perquè no troben una explotació on anar, per començar. Hi ha més demanda que oferta. Una demanda petita, però hi és. Com és possible això a una illa tan petita i no ho és a moltes altres zones de producció lletera que sempre es queixen de que no hi ha relleu? Una de les raons principals és que la majoria de les persones que treballen en aquests llocs no són propietaris de les terres. No són propietaris. Funcionen amb un contracte tradicional anomenat a mitges i titulat a efectes jurídics Societat Rural Menorquina, una SRM, que és el que tenen aquí dalt, que són les seves sigles, on les despeses i els beneficis van repartits entre el propietari de les terres i el pagès a parts iguales. Repeteixo, despeses i beneficis a parts iguales. El propietari posa les terres i les construccions, o sigui l'immobilitzat, i la meitat de la maquinària i el bestiar, i no treballa la finca normalment. Totes les obres van a compte seu, el mateix que hipoteques i finançament, a compte del propietari. Mentre que el pagès posa l'altra meitat del ramat i la maquinària, i és el que treballa sempre en el lloc on hi viu la seva família. Aquest contracte és anual i es renova indefinidament any rere any, si cap de les parts el revoca. Quan el pagès vol deixar el lloc, ho ha de dir, comunicar abans de Sant Josep, dia de 9 de març. I el canvi es farà el mes d'agost, que és quan ha acabat l'any agrícola. El nou pagès que entra a treballar en aquesta explotació ha de pagar en el que surt la seva part, que és la meitat del bestiar i la maquinària. La part del propietari queda igual i no es toca. El patrimoni no s'altera. Per altra part, pot succeir que la propietat digui al pagès, també abans de Sant Josep, que és el termini, que no interessa continuar i que ha de deixar el lloc. I el mes d'agost ha de deixar la feina i la vivienda. Tot això, que es fan els terminis esmentats lliurement, no tindrà cap transcendència jurídica. És a dir, que lliurement tant te pots anar com el poden treure. Tot l'anteriorment dit sembla molt fort i molt bèstia, però funciona. I ha funcionat els últims 200 anys, permetent que el ramader faci la seva carrera professional, passant de dos per dos o tres llocs al llarg de la seva vida. Començant per un lloc petit, amb una despesa inicial petita, pagant la part del que surt d'allà, i amb el pas del temps anar passant a llocs més grans. Encara que n'hi ha molts que fan tota la seva vida en el mateix lloc, i en algun cas són autèntiques dinasties amb dècades de permanència i que moltes vegades passa a ser el seu cognom oficial, oficiós, perdó. Tot això ho explico per justificar el que no tenim a Menorca un problema greu de relleu generacional en aquest sector lleter. Tenim joves disposats a entrar a viure als llocs, amb vivenda i feina. Molta feina, però també és un estil de vida. Una altra petita explicació que ajuda a comprendre el perquè del relleu generacional és que Menorca disposam d'una escola agrària, una per una illa tan petita. Una petita escola que dona formació agrícola des de l'any 1972, ara fa 43 anys, ubicada dins un centre agrícola que es va crear l'any 1922, ara fa 93 anys. Per ell han passat 899 alumnes, a una mitjana d'uns 20-25 per any, distribuïts en dos cursos, primer i segon. Allà es dona una formació totalment ajustada a la realitat insular, sent un ensenyament molt local, procurant formar i il·lusionar els alumnes que després tindrem com usuaris a la nostra mateixa conselleria. Amb aquest format, som l'única escola agrària de Balears, ni Mallorca ni Eivissa la tenen. També s'ha de dir que darrerament estan apareixent altres figures jurídiques, però que encara són minoritàries, com és el lloguer de finca. Tornant a les explotacions lleteres, s'ha de dir que el total del fems produït es reutilitza com adob a les mateixes terres, ja que la majoria estan en càrregues ramaderes de menys d'una unitat bestiar major per hectàrea. A pesar d'això, tenim tota la part sud de la illa, que és zona vulnerable per contaminació, per contaminació de nitrats, han superat 50 mil·ligrams per litre a causa dels molts habitatges aïllats que no disposen de clavegram, l'activitat agrícola i la problemàtica de les petites depuradores de l'aigua. O sigui, la contaminació són tres motius. Clavegram de les viviendes aïllades, com veiem aquí darrere, bé, això és un lloc, en concret aquí viu una família, aquest no, n'hi ha un altre. No, potser s'entaria no. Activitat agrària, clavegram que no estan aclarites les viviendes aïllades, que n'hi ha moltes, inclús les d'ús turístic, i la problemàtica de petites depuradores. El 50% de les explotacions lleteres de Silla també tenen ramats d'oví, que ocupen les zones marginals i boscoses dels llocs, que és un maneig totalment extensiu i ecològic. Aquí apareix la paraula ecològic, i s'ha de recordar que Menorca disposa del 66,1% del seu territori, 66,1%, en territori protegit, en diferents lleis, com és el Pla Territorial Insular, cepes, anells i tot això. En resum, estem parlant d'una producció lletera en plena Mediterrània, de secà i a hivern, amb un aprofitament basat en el pastoreig que conforma un paisatge que va ser determinant perquè l'any 1993 Menorca fos declarada per la UNESCO Reserva de Biosfera. Biosfera, que bé era el primer cas on era una reserva de biosfera que no era un territori aïllat, era un territori habitat. Vam ser els primers que van baratar aquest concepte de la UNESCO, on hi ha una població que viu dins un territori, que fa unes activitats i som una reserva de biosfera. Per acabar aquesta descripció, que algú podria pensar d'idílica, s'ha de dir que aquesta petita regió de producció lletera té els mateixos problemes que les zones grans. La rendibilitat de la producció de la llet és molt baixa i pot comprometre la seva existència de futur. A més, tenim la problemàtica de la insularitat. Tot ha d'arribar en barco i tot té de sortir en barco, amb un sobrecost clar i evident. Per concloure, m'atreviria a dir que el paisatge de Menorca, aquest que veiem aquí, és de ses parets i ses vaques, pot ser que sigui meravellós. El panorama agrícola no ho és tant. Moltes gràcies.
Dono la paraula a Nicolás Tripocnei, de la Cambra Agrària de l'Ariège. Ens es presentarà el cas de la regió Midi-Pirineu de l'Ariège.
Buenos días, buen día, bonjour a tous. Muchas gracias para su disponibilidad y para estar con nosotros hoy. Lo siento porque no hablo catalán desde todo este tiempo pasando, cruzando la frontera.
Si quieres darle a la asistente.
Perfecto, gracias. Gracias a la Escuela Politécnica para acogernos y gracias al equipo de Agroterritorio para la organización de este seminario. Bueno, entonces, tengo una presentación en francés y voy a hablar un poco en francés y mezclado con castellano y vamos a ver si tenéis alguna duda, podéis preguntarme. C'est parti. Entonces, je viens de la Chambre d'agriculture de l'Ariège et je vais vous présenter d'abord le contexte de la filière bovin-lait sur la région Midi-Pyrénées, auquel fait partie l'Ariège. Donc, Midi-Pyrénées, c'est 8 départements qui sont situés de l'autre côté des Pyrénées. Situé entre le Languedoc-Roussillon qui est du côté méditerranéen et l'Aquitaine qui est du côté de l'océan Atlantique. Alors, pour la production bovin-lait, Midi-Pyrénées n'est pas une région majeure et inversement, le secteur bovin-lait n'est pas non plus un secteur de production majeur pour la région Midi-Pyrénées. En gros, on a seulement 8% des exploitations de Midi-Pyrénées qui produisent du lait de vache. En termes de lait, on est plutôt sur une région de production de lait de brebis, des leche de oveja, con País Vasco y con el Roquefort, que son dos zonas muy conocidas, famosas de producción de queso de oveja. Entonces tenemos, como yo creo, 90% de la producción de leche de oveja viene de dos regiones en Francia, Aquitania, que está entonces aquí, y Midi-Pyrénées. Pero para el leche de vaca son solo 4% de la producción nacional. Y al nivel de la región Midi-Pyrénées tenemos solo entre 4.000 fincas de producción de leche de vaca. C'est une production qui est en diminution constante depuis de nombreuses années. On a par exemple, en 2011, on avait quasiment 900 millions de litres produits. Deux ans plus tard, il n'y en a plus que 800 millions. Donc on voit qu'il y a une baisse et sur l'ensemble des années, il y a une très très forte baisse et du nombre d'exploitations et du volume de lait produit. Alors si on se demande est-ce que ce lait il est transformé dans la région ou pas, en gros on a un tiers de la production de lait, du volume de lait produit dans Midi-Pyrénées qui est transformé dans la région Midi-Pyrénées. Et puis, il y a un autre tiers qui est transformé en Auvergne. Donc, l'Auvergne, c'est là. Et un tiers qui est transformé en Aquitaine. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir sur la carte, hein, tout ce qui est en vert foncé, ce sont les régions, les départements où il y a vraiment une forte concentration d'exploitation de bovin-lait. Ce n'est pas le cas forcément de notre région. Et de la même manière, vous avez dans le lait qui est transformé dans les laiteries et dans les fromageries de Midi-Pyrénées, vous avez une partie qui ne vient pas de Midi-Pyrénées, donc du lait qui vient des régions proches, surtout Aquitaine. Voilà. Ensuite, on va passer au cas de l'Ariège. Donc l'Ariège, c'est ce petit département que vous avez à la frontière avec l'Espagne. Voilà. Pour vous dire, nous, les comarcas qui sont vecinos de Ariège, al sur de Ariège. Tenemos Andorra y tenemos las comarcas como Pallars Sobirá, la Seu d'Urgell, el Berguedà, estas comarcas. Donc c'est une petite filière, la production de bovin lait pour notre département. On a en gros une centaine de producteurs de bovin lait qui représentent 5000 vaches. En comparaison, la production de bovin viande est beaucoup plus importante avec 80 000 vaches. Donc déjà, on peut voir qu'on n'est pas sur un département qui produit énormément de lait de vache, et avec seulement 32 millions de litres de lait livré. Donc je ne parle pas du lait qui est transformé dans les fermes. On a là, il y a 2 millions de litres de lait transformé par des producteurs laitiers qui sont aussi transformateurs. Voilà, on estime à 18 exploitations qui sont producteurs fermiers, donc qui produisent leur propre fromage sur l'exploitation. Voilà. Au niveau de l'utilisation de ce lait, il y a donc des collectes qui sont organisées avec des fromageries qui sont situées sur le département, notamment dans la partie ouest du département. Donc vous avez là en bas une petite carte qui présente le département, qui présente la concentration des exploitations en Ariège. On a vraiment deux situations bien distinctes. On va avoir dans le nord du département... Il est où le machin? Là. Je l'ai perdu. Je suis pas doué. Je suis pas très doué, pardon. Alors, au nord du département, vous avez plutôt... on est dans une zone de plaine, donc on va avoir plutôt des exploitations laitières avec beaucoup de cultures, des systèmes maïs importants. Et à l'inverse, vous allez avoir une deuxième zone avec plutôt... Donc on est en zone de montagne ou de moyenne montagne, et là on a plutôt des systèmes herbagers qui sont largement centrés sur, sur la production de foin et sur le pâturage. Voilà. Donc ça nous donne deux situations assez différentes. En zone de montage, les systèmes herbagers vont bénéficier d'une revalorisation des prix du lait en proposant du lait qui peut permettre de faire du fromage au lait cru. C'est-à-dire que l'on a des fromageries dans le département qui collectent du lait pour produire des fromages au lait cru. Para producir queso con leche crua. Et entonces, para este tipo de leche, necesita un control muy importante de las bacterias y de la calidad de leche. Y con esta calidad permite a los ganaderos de tener un precio del litro de leche que tienen un poco más de valorización. Donc là, c'est plutôt pour les systèmes herbagers, les systèmes qui fonctionnent plutôt en zone de montagne. Voilà. Donc si on continue, voilà, on arrive en fait assez facilement à déterminer plusieurs critères pour essayer de faire une typologie des exploitations sur le département. Au niveau de l'alimentation et de la stratégie fourragère, farage, on va avoir finalement trois systèmes. Un système qu'on appelle zéro pâturage, ça veut dire des animaux qui restent, qui ne se nourrissent pas des pâtures. Donc avec uniquement la production des cultures, issue des cultures de l'exploitation et l'achat d'aliments. On a ensuite un système à l'inverse, qui est un système herbagé, celui dont je parlais juste avant, donc où là on a plutôt des animaux qui utilisent des pâtures, qui se nourrissent de la production de foin, plus des aliments. Donc là, on va avoir des systèmes où il n'y a pas de production de maïs sur l'exploitation. Et puis, on va avoir un système mixte. Voilà. Et pour compléter, on va avoir en zone de, vraiment de plaine, il y a la possibilité d'irriguer ou pas les cultures. Donc là aussi, ça crée un critère supplémentaire pour essayer de faire une typologie des différentes exploitations. On peut aussi parler en termes d'organisation du travail. Là aussi, on a beaucoup de variétés, beaucoup de situations très très diverses entre celui qui va avoir un robot, qui va plutôt avoir des quotas importants et qui va avoir un robot pour lui faciliter le travail. Quand on compare ça avec un éleveur qui transforme sur place son lait en fromage, là par contre, la transformation c'est très chronophage et ça demande beaucoup de main-d'œuvre et beaucoup de travail. Et pareil, voilà, en termes de destination du lait et d'utilisation du lait, là aussi on a une grande variété. C'est lait, c'est les fromages produits par les fromageries locales, par les fromageries extérieures ou par directement les exploitations elles-mêmes. Voilà, alors quelques données pour compléter. Donc, en partant de ces trois types d'exploitation, donc, el primer es... vamos a decir, una finca con producción de cultivos y la utilización del uso de riesgo. El segundo es solamente con hierbas y el tercero es como el primer, pero sin riesgo. Riego. Entonces podéis ver la superficie de la finca, la mecha, la unidad de trabajo y el número de vacas y la producción, el volumen de producción por vacas. Globalement, on est sur des exploitations qui aujourd'hui sont dans certaines difficultés économiques, qui demandent beaucoup, beaucoup de capital pour pouvoir générer du revenu pour les exploitations. Et ça, d'ailleurs, c'est aussi ce type de réflexion qui aboutit à réfléchir peut-être à la manière dont on peut améliorer l'efficacité énergétique. Là, on en vient directement à la raison de ce projet. C'est vrai que la question énergétique, du coup, pour ces exploitations se pose compte tenu du besoin de maîtriser ses charges. Alors, sur la consommation énergétique, là, je vous donne quelques données au niveau national pour avoir un peu des idées de ce que cela donne en termes de consommation énergétique sur le secteur bovin-lait. Donc, selon les cas de figure, selon les systèmes de production, on va avoir une consommation énergétique qui varie, hein, entre... J'ai dû faire une erreur, c'est pas 4, c'est pas 5000. Je crois que ça doit être 10 000. J'ai dû faire une erreur là, pardon. C'est de 4000 à 10 000, hein, je pense, plutôt que de 4000 à 5000, excusez-moi. Il y a en gros 4 grands postes de consommation d'énergie. Les produits pétroliers, qu'on calcule, qu'on ramène au litre de fuel. L'électricité, l'alimentation et l'utilisation d'engrais, donc la fertilisation minérale. Hein. Et ce sont ces 4 postes que l'on étudie généralement lorsque l'on réalise des diagnostics énergétiques dans ce type d'exploitation. Ça va être un peu les 4 postes qui vont ressortir. On pourra tout à l'heure regarder dans les cas d'études que l'on a réalisés directement dans le cadre du projet, comment ils s'y retrouvent. Donc là, vous avez voilà, la répartition en gros. Au niveau national, au sein des exploitations agricoles laitières qui sont en conventionnel, on retrouve à peu près la même répartition de la consommation énergétique par poste de dépense. Par contre, il y a une légère différence avec avec les exploitations en agriculture biologique, parce que par exemple la fertilisation minérale forcément va pas être la même. Alors, pour vous donner donc l'exemple sur trois cas d'exploitation pour lesquels on a réalisé un diagnostic énergétique. Comme le disait Christina, on a utilisé une méthode qui s'appelle Diater, qui est une méthode qui est reconnue au niveau national par l'État français et que l'on met en place. On l'a fait beaucoup à l'époque des PPE, des plans de performance énergétique. Il y a eu une période où il y avait beaucoup de diagnostics qui étaient réalisés. En ce moment, nous, par exemple, au niveau de l'Ariège, on en fait beaucoup moins parce qu'il n'y a pas cette nécessité-là forcément au niveau des exploitations. Du coup, ce projet-là était intéressant parce que c'était aussi l'occasion de rappeler l'intérêt de faire des diagnostics. Donc on a pris trois exploitations. Vous avez, j'espère que ça se voit à peu près. Donc vous avez au niveau, par exemple, du volume de lait produit, on a deux extrêmes qui correspondent bien aux extrêmes qu'on a en Ariège. Une exploitation en zone de montagne, système herbager, volume produit 200 000 litres par an. À l'inverse, en plaine, un système fondé avant tout sur la production de culture, 800 000 litres par an. Et entre les deux, un cas qui est entre les deux, quoi, à 500 000 litres de lait par an. Et on le voit, bon, au niveau du nombre de vaches par UGB, on a aussi une grosse différence d'une exploitation à une autre. Donc c'est assez représentatif, ces trois exploitations, on peut dire, de ce qui existe sur le département. Donc, on s'est intéressé, on a rassemblé, pour faire la synthèse un petit peu du diagnostic, on s'est intéressé finalement à deux grandes problématiques. C'est d'abord d'essayer de voir ce que j'ai appelé là les points critiques, c'est-à-dire vraiment ce qui peut poser des difficultés à l'exploitation en termes de consommation énergétique, les points de vigilance, là où il faut peut-être essayer de regarder si on peut améliorer les choses. Et donc là, par exemple, la consommation énergétique, on voit que alors lorsqu'elle est totale, on va voir une belle différence. Bon, c'est logique parce qu'on n'a pas non plus les mêmes tailles d'exploitation. Et quand on regarde, quand on ramène cela, par exemple les émissions de gaz à effet de serre, lorsqu'on les ramène au litre de lait, là c'est pour 1000 litres, ben on se rend compte qu'en fait, c'est les deux exploitations qui ont le plus de volume, qui émettent le moins de gaz à effet de serre par 1000 litres. Et en termes de différents points, on se rend compte qu'il y a aussi, par exemple, tout à l'heure je vous parlais des quatre postes de dépenses dans la consommation énergétique, on voit là aussi qu'il y a des différences entre les uns et les autres. Vous avez, classiquement, il y a une exploitation sur les trois, il y a une exploitation qui a de l'irrigation, donc fatalement, elle va avoir un poste de dépense irrigation qui tout d'un coup ressort très fort. Inversement, le système herbager, en termes de fertilisation minérale, il va rien avoir. Donc, c'est la dernière ligne, consommation engrais. On remarque aussi que finalement, en termes de consommation de pétrole, d'électricité et d'aliments, l'exploitation 1, qui est en système herbager, finalement a plus de pourcentage que celle l'exploitation 2, qui est la grosse exploitation avec des cultures. Donc ça, c'est un peu les points entre guillemets négatifs, quoi. Hein, les points sur lesquels il y a sans doute une vigilance. On a voulu aussi ressortir les bonnes pratiques, les points positifs. Alors sur les trois exploitations, aucune des trois n'a développé de système de production d'énergie renouvelable. Par contre, on retrouve des bonnes pratiques qui permettent de compenser certains points négatifs en termes de consommation énergétique. Par exemple, dans l'exploitation 1, qui est celle du système herbager, on va avoir une autonomie fourragère. À l'inverse, quand on regardait tout à l'heure les points critiques sur les autres exploitations, il y avait une dépendance aux achats d'aliments extérieurs, notamment pour les protéines. Sur l'exploitation 1, en termes de bonnes pratiques, il y a peu d'apports d'engrais de synthèse. D'ailleurs, ça ne ressortait pas au niveau des consommations énergétiques. En termes de bonnes pratiques dans les autres exploitations, on peut par exemple mettre en avant l'homéopathie utilisée par l'exploitation 2, par exemple, ou le fait de mettre des cultures intermédiaires en hiver. Donc vous allez avoir une production de maïs en culture d'été, et puis on va avoir des cultures intermédiaires qui permettent de couvrir le sol, qui permettent d'enrichir naturellement le sol, d'apporter de l'azote, ce qui fait un petit peu diminuer la fertilisation. Ça permet de stocker du carbone, etc. etc. Voilà. L'exploitation 3, on a retrouvé de bonnes pratiques sur notamment les équipements. Équipements spécifiques, pour le coup, à une exploitation laitière. Comme la pompe à lait, comme le refroidisseur, le chauffe-eau basse consommation, le tank à lait qui est économe, un éclairage à LED. Donc ça, c'est un ensemble de pratiques qui sont plutôt qui vont dans le sens d'une économie d'énergie. Et effectivement, ça renvoie à des bonnes pratiques qu'on pourra retrouver, je pense, dans le guide et dans la stratégie. C'est des choses que l'on a déjà identifiées dans beaucoup d'exploitations qui cherchent, par ce type d'équipement, à essayer d'améliorer l'efficacité énergétique de leur exploitation. Voilà. Ce qu'on verra aussi, c'est que forcément, là, vous avez le stockage de carbone. Et les systèmes herbagers, on en parlait tout à l'heure avec Mélanie, elle va avoir que des systèmes herbagers chez elle. Tout le monde a du stockage de carbone. Dans notre exemple, comme on a les exploitations 2 et 3 qui ne sont pas des systèmes herbagers, on ne va pas retrouver un tel stockage de carbone. Mais ça peut être compensé, ce stockage de carbone, comme par exemple donc du sylvopastoralisme. Il y avait également dans l'exploitation 2, si je ne dis pas de bêtises, voilà, son stockage de carbone sur l'exploitation 2, il est notamment dû aussi aux cultures d'hiver. Voilà. C'était un petit peu la présentation que je proposais. Si vous n'avez pas de questions, je pense qu'on va passer à Mélanie, qui va vous faire la suite sur la Lozère. Muchas gracias. Muchas gracias.
Bonjour à tous, donc je vais parler également en français puisque je ne parle ni catalan ni bien espagnol, donc on va rester au français. Je vais essayer de parler doucement. Si vous avez des doutes ou des questions, vous n'hésitez pas à me couper. Merci de la même façon que Nicolas, on va remercier l'ensemble des partenaires qui ont permis d'organiser cette journée, bien entendu l'Université de Gironde et également les collègues d'AgroTerritory qui ont assuré l'organisation aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter la production bovin lait en Lozère. Donc, comme Nicolas, la Lozère, c'est un département. On fait partie de la région Languedoc-Roussillon. Et au niveau de la région, on est le principal producteur de lait de vache en Lozère. Voilà. Donc, on représente quasiment 90% de la production laitière de la région sur le département de la Lozère. Donc le département, ça représente environ 420 exploitations laitières avec 75 millions de litres produits sur le département. Et donc dans ces quantités, il y en a une partie qui va à Midi-Pyrénées et qui est transformée chez nos collègues voisins. Ça représente 16 500 vaches laitières. Donc on est sur le département une zone de montagne, d'accord, le département de la Lozère. On est sur le sud du Massif central à une altitude moyenne de 1000 mètres d'altitude. D'accord, donc on est vraiment sur la montagne. Basé quasiment exclusivement sur de la production de fourrage d'herbe, puisqu'on a une SAU qui est couverte à entre 90 et 95% d'herbe, quoi. D'accord. Après, le reste, on a une production ponctuelle de céréales pour notamment avoir une partie de céréales et une partie de la paille pour les bâtiments. Et ensuite, on a très très peu de maïs qui est produit sur le département. Ça va être uniquement sur la zone de vallée qui est très petite et où on va avoir une centaine d'hectares au total sur le département en maïs. D'accord ? Donc après, on a aussi la caractéristique où on a très peu d'élevage, on a quasiment pas même d'élevage 100% en bâtiment, c'est-à-dire avec zéro pâturage. Tous les systèmes qu'on a sont des systèmes pâturants. Avec la majeure partie de la production qui se situe sur le nord du département, donc secteur de montagne d'altitude, avec un système de pâturage qui est très important, avec une valorisation donc des surfaces d'herbe par le pâturage. Donc après, au niveau de la valorisation du lait, le lait est principalement vendu aux coopératives laitières. Donc on a Sodial et Lactalis qui sont les deux principales présentes sur le département, qui sont des grosses coopératives nationales. On a ensuite un petit peu de transformation fromagère à la ferme, mais honnêtement pas beaucoup. Et ensuite on a des petites coopératives sur le département qui sont présentes également. Et une partie du lait est également valorisée dans le cadre d'AOP, AOP fromagère, qu'on a, donc Bleu d'Écosse, par exemple, où on est également regroupé avec, en général, l'Auvergne et des départements limitrophes au niveau de Midi-Pyrénées. Donc, au niveau économique, on a sur le chiffre d'affaires de la production sur le département 24 millions d'euros par an, soit 17% de la production agricole totale de la Lozère. Donc au niveau du département, on est un gros producteur laitier, mais on est également des gros producteurs de bovins viande, également d'ovins lait. D'accord, on est un territoire exclusivement d'élevage, on n'a pas de producteurs céréaliers ou de production végétale sur le département. La production laitière, comme en Ariège, diminue fortement sur le département, liée à la crise laitière qui a démarré il y a quelques années et qui aujourd'hui, on est en plein dedans, au niveau de la France, avec une baisse des prix du lait et des situations économiques qui sont difficiles et une restructuration qu'on est également en train de vivre en ce moment même. Donc après, on a, donc je parlais des trois AOP fromagères, la Guiole, Bleu d'Écosse et Bleu d'Auvergne. On a également une filière à l'échelle Massif central qui se développe, qui s'appelle Monlay, qui a été mise en place à l'initiative des agriculteurs. Et ensuite, on a deux marques qui sont développées sur le département de la Lozère, qui est De Lozère et qui est associée à Sud de France, qui est une marque régionale. Et enfin, on a une coopérative laitière sur le département qui valorise notamment un yaourt qui s'appelle Duo Lozère. Donc pour les cas d'études que je vais vous présenter, il y en a 4 qui sont finalisés, il y en a encore 4 qui sont en cours de réalisation, donc je ne pourrais pas vous présenter les indicateurs économiques et énergétiques aujourd'hui. Mais sur les 4 qu'on a finalisés, donc ça représente une surface moyenne de 180 hectares, on va dire, avec plus de 160 hectares en prairie. Donc vous comprenez bien le système fourrager qu'on a sur le département de la Lozère avec vraiment l'importance de ces zones de prairies. Et encore, avec, ça peut paraître des surfaces importantes, mais ce sont des surfaces qui sont peu productives. Et on voit que ben, sur toutes les exploitations qui sont étudiées, il n'y en a aucune qui est autonome en fourrage. Et c'est le cas sur l'ensemble du département. On a très peu d'exploitations qui sont autonomes en fourrage, donc avec des achats d'aliments à l'extérieur qui sont importants. On a un nombre moyen de vaches laitières de 80 par exploitation et une production moyenne d'un peu plus de 300 000 litres. Donc on est sur des petites exploitations laitières de montagne. Voilà. Il y a une exploitation dans le groupe de 4 qui produit de l'électricité par le solaire photovoltaïque. Et on a cette même exploitation a également un lac collinaire. Donc c'est une réserve d'eau qui récolte l'eau par les pluies. Et il va se servir de cette eau pour irriguer de la luzerne notamment. Et ensuite, on a un système irrigant avec un petit peu de maïs. Donc sur les indicateurs, je vous ai mis un peu de détails, mais ce qu'on peut remarquer, c'est que l'exploitation 1, donc qui est la plus grosse exploitation productrice de lait dans l'échantillon, avec 90 UGB de vaches laitières, a une consommation énergétique qui est dans les plus faibles quand on les ramène soit à l'UGB, soit au litre de fuel. Donc là, on remarque ici ben, voilà, qu'on fait ce qu'on pourrait appeler des économies d'échelle en fonction des productions. Ce qui ressort également, c'est l'exploitation 3, qui est une grosse exploitation, mais qui est très énergivore, parce qu'elle cultive beaucoup, elle fait beaucoup de labour, donc il y a des dépenses de fuel sur l'exploitation qui sont très importantes. Donc c'est pas du tout rationalisé au niveau environnemental, on va dire, hein, mais par contre c'est une exploitation qui a un système plus intensif que la moyenne au niveau du département. Et en plus, eux, ils sont en transformation fromagère, donc ils ont aussi une surconsommation d'énergie liée à la transformation fromagère, qui est importante. Et ensuite, on peut parler de l'exploitation 4, qui est vraiment une petite exploitation de montagne. Et on remarque qu'en consommation énergétique, ces consommations, quand on les ramène soit à l'UGB, donc à la vache laitière, soit au litre de lait produit, sont quand même assez importantes. Voilà. Donc après, sur les émissions de gaz à effet de serre, eh bien, ça suit la même ligne, hein, les émissions de gaz à effet de serre. De la même manière, on a la plus grosse exploitation, on va dire, qui a une émission qui va être la plus faible. Et ensuite, les émissions qui vont être plus importantes sur des plus petites structures. Et on voit encore l'exploitation 3 qui ressort avec des émissions qui sont très importantes parce qu'on a des pratiques de l'éleveur qui sont beaucoup plus intensives. Ce qui ressort pas là également, c'est la production d'énergie, hein, qui n'est pas prise en compte. Donc c'est l'exploitation 3 qui a une toiture photovoltaïque. Donc sur les diapos d'avant et celle-ci, c'est vraiment, on s'attache vraiment aux consommations et c'est pas un bilan à l'échelle de l'exploitation, quoi. On n'a pas fait encore ce travail-là de bilan global. Voilà, donc, et pour terminer, sur la production d'énergie, donc c'est l'exploitation 3 qui a une toiture photovoltaïque. Donc, je vous ai mis une petite synthèse, 100 kW crête installée, 680 m² de toiture, 120 000 kWh par an, soit, si on le ramène aux 1000 litres, 326 kWh par an par 1000 litres de produits sur l'exploitation. Et bon, ça, si on voulait vraiment aller dans le bilan, il faudrait le ramener avec les consommations énergétiques derrière. Voilà, j'espère que vous avez compris mes propos et ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Ouais.
Doncs ara, ràpidament, molt ràpidament, el cas del boví lleter de Catalunya, que ens hem centrat en el periurbà de Girona. I com que molts de vosaltres sou de per aquí, de Catalunya, sí, i de per aquesta zona, per tant, anirem bastant ràpidets.
Em donen 2 minuts, o sigui que hem de ser... Més que ràpid, superràpid, si no, no tindrem temps. Bé, en qualsevol cas, aquestes dades són molt generalistes i conegudes per tothom. Els us ofereixen l'últim informe de l'Observatori de la Llet i de la Carn del Departament d'Agricultura. Podem passar per alt. En qualsevol cas, certament interessant serien potser les tres característiques finals, que tenim un perfil d'explotació lletera molt professionalitzat, molt curós amb la qualitat de la llet, amb temes com benestar animal, selecció de producte, de selecció de genètica, etc. I unes empreses molt ben cohesionades en el territori, una variable per nosaltres molt interessant. A veure, us presento el periurbà lleter de Girona. Sí? És una zona, com podeu veure, de mosaic agroforestal entre les Guilleries i les Gavarres i travessada per multitud d'infraestructures i equipaments de la logística de la ciutat. Un espai que en aquests moments té 68 explotacions lleteres ben dimensionades i ben orientades comercialment i que fa front a un dels grans problemes que té, que seria... Un dels problemes que té en primera instància que seria el patir no tenir massa terra, val? I haver estat amenaçada durant els últims 15 anys en processos d'expropiació. Com podeu veure, 68 explotacions representa el 9% de les granges de Catalunya, el 18% de la producció, les comarques gironines encara produeixen el 37% de la producció de llet de Catalunya. El greuge comparatiu potser seria en la producció, el tema dels aliments, un 68% dels costos, i pràcticament d'aquesta superfície tan gran dels 17 municipis no arriba ni a 3.000 les hectàrees que es poden conrear. Per tant, ja podeu imaginar que s'ha de comprar bastant a fora. El perfil d'explotació oscil·la moltíssim, són explotacions pràcticament totes grans, només tenen aquesta dinàmica, pràcticament més grans que les mitjanes que surten en les dates de l'informe de l'Observatori de Catalunya, però en qualsevol cas només punxen seria amb el tema de la superfície de la terra. Amb dimensió, només dir que el 21% de les explotacions, com podeu veure, tenen una dimensió de quota del 61% de la zona, amb la qual ja ens dona una mica el perfil d'explotació professionalitzada, especialitzada, etc. Comercialment doncs, és una zona absolutament singular perquè d'aquí han sortit moltíssimes iniciatives, totes elles pràcticament reeixides i de les quals algunes d'elles en podrem degustar a l'hora de dinar, per tant doncs, tenim un periurbà amb unes dinàmiques molt clares. Els casos d'estudi. Tampoc ens hi posarem més que puntualment, passarem de puntetes per sobre, però en qualsevol cas serien 5 casos de la lletera de Campllong, que no ens hem centrat únicament en la zona del periurbà, també ens hem anat fins a Osona, la comarca més productora de Catalunya en volum de llet. Una característica per destacar i per dedicar-hi 2 segons seria la característica de que la majoria de la gent, els titulars d'explotació són gent de menors de 45 anys. Hem posat 50 per algun cas, però en qualsevol cas seria bastant parell el que ens explicaven a Menorca, cosa que ens expliquen els francesos que no és així, i per raons absolutament diverses, que per temes socioterritorials que podrien sortir més endavant. 4 propietaris, un masover, la sau entre 8 i 80, tornem a dir aquestes dinàmiques que hem repetit una mica, explotacions de més de 100 caps fins a 500, totes elles tecnològicament molt ben preparades, si no tenen robot o 2 robots, tenen sala de munyir, i molts d'ells, a més de fer llet, també fan d'altres complements a l'explotació, fins i tot serveis a tercers. El tema de consum, bé, elèctric, instal·lacions, rec, aigua calenta serien les principals despeses, el gasoil, maquinari, regadiu i generador. El rec pot ser absolutament divers, 5 explotacions i 4 casos. Com dèiem abans, un o dos tancs, sales i robots. El tema de l'alimentació és allà on podem incidir de manera més indirecta, perquè és un tema d'energies indirectes, però com podeu veure doncs és pràcticament l'ensitjat de blat de moro i la farinada. I les despeses, molt ràpidament, elèctriques 80 quilowatts per 1.000 litres i el de gasoil 19 litres de gasoil per 1.000 litres. Això ho veurem més endavant, passa molt de pressa. Conclusions. A veure, un àmbit molt afectat per la logística de la ciutat, amb greus competències d'usos entre el territori, una participació nul·la de la societat, podem dir que ni, podem dir-ho clarament, ni els ajuntaments són sensibles al tema de les qüestions agràries, estem per tant amb un greuge comparatiu, però tenim moltes dinàmiques positives. El tema de la producció de qualitat i de proximitat, la densa estructura laboral que es crea en els propis, a partir dels propis ramaders, que no només fan llet, sinó que també s'estructuren per la transformació i sobretot per la comercialització, que seria dels temes importants. I per últim, que és un sector molt dinàmic, que es mou moltíssim pels canvis, pels avenços tecnològics, per l'evolució empresarial i que està oberta a la diversificació. I sobretot veu en aquest tema de l'estalvi energètic una oportunitat de futur. Finalment us volíem posar, mentre en Roberto ens puja aquí dalt i ens explica la guia, us volíem posar aquesta taula comparativa que podeu trobar en la guia que us hem anat enviant per mirar quatre comparatives de les dades. Però en qualsevol cas, com que ho podem fer més endavant, són dades, són simplement números i ho deixaríem aquí. Gràcies.
Doncs...